Anaïs Feuga pour le journal. Bonsoir Anaïs.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. Un nouveau monsieur vaccin pour piloter la campagne de vaccination en France. Il sera gratuit pour tous pour un coût d'€1,5 milliard. Le Premier ministre vient de détailler la stratégie française. Priorité aux plus vulnérables, 1 million de personnes dès janvier et réveillon en mode réduit, 6 adultes au maximum. On fait le point avec Daniel Messager et on poursuit avec vous Fabienne au téléphone sonne.
Absolument, puisque vous avez entendu les préconisations, les méthodes, les pistes pour ce fameux vaccin contre le Covid, les cadences aussi, quelques dates. Il reste moult questions que vous avez envie de nous poser, c'est le moment. Moi, en tout cas, j'en ai une au moins. Est-ce que si on est vacciné, on pourra enlever le masque? J'ai l'impression de déjà connaître la réponse, mais vous pouvez y aller au 01 45 24 7000.
Il était immortel depuis son entrée à l'Académie française en 2003. Le président de la République lui rendra hommage dans une heure. Beaucoup de réactions à la mort de son prédécesseur, Valéry Giscard d'Estaing, hier à 94 ans. À Chamalières, les drapeaux de l'Amérique qu'il a occupés de longues années sont en berne. Les tenants du giscardisme, courant politique qui fleure bon les années 70, se souviennent. Et le musée d'Orsay salue son audace, lui qui avait décidé de transformer la gare en temple des impressionnistes. Dans ce journal aussi, les mesures pour le pouvoir d'achat 2019 ont bénéficié aux ménages modestes. Un village dans l'Isère où une ZAD a été récemment démantelée, complètement vandalisée la nuit dernière. Et puis le football, la reprise des entraînements pour les adultes, c'est possible, mais sans contact, comment faire? La Fédération de football donne des pistes.
France Inter.
La vaccination en France contre le coronavirus, un pas de plus ce soir vers du très concret. Il faut établir la confiance, dit le nouveau monsieur vaccin Alain Fischer, membre de l'Académie des sciences, aux côtés à l'instant du Premier ministre pour présenter la stratégie vaccinale. Bonsoir Daniel Messager.
Bonsoir.
Alors que retenir de ces annonces?
Alors la première étape de vaccination, comme recommandé par la Haute Autorité de Santé, concernera les résidents des EHPAD et les personnels à risque qui y travaillent, soit 1 million de personnes, c'est la quantité de vaccins dont on disposera le premier mois. Puis on élargira aux 14 millions de personnes à risque à partir de mars, à risque soit en raison de leur âge, soit à cause d'une maladie chronique, des dates qui peuvent éventuellement bouger en fonction du moment où l'autorisation sera effectivement donnée. Enfin, ce sera autour de l'ensemble de la population au printemps, 1,5 milliard de budget pour 200 millions de doses. Jean Castex a précisé que nous ne paierons à la fin que ce qui sera livré. Les médecins généralistes seront au cœur du dispositif. Chacun doit pouvoir se faire vacciner par un professionnel de santé à côté de chez lui, un lien de confiance sur lequel le chef du gouvernement a insisté. Un mot sur le parcours logistique pour la phase 1 des EHPAD. Il y aura deux circuits de distribution. Ça passera par des pharmacies référentes en lien avec les EHPAD, avec un stockage de quelques jours, ou via les centres hôpitaux capables de conserver à moins 80 degrés les premiers vaccins. De rappel, le vaccin sera gratuit et pas obligatoire. Et le Premier ministre a beaucoup répété le mot de transparence. Le Comité économique, social et environnemental organisera un suivi avec des citoyens pour que l'information circule. Un terme sur lequel le monsieur vaccin tout juste nommé a conclu aussi son propos, le professeur Alain Fischer, spécialiste d'immunologie de l'hôpital Necker, spécialiste de génétique, c'est lui qui avait guéri les premiers bébés bulles, ces enfants qui naissaient sans défense immunitaire.
Daniel Messager, spécialiste santé de France Inter, vous parliez de la logistique, un vaccin pas encore disponible mais déjà attaqué. Le groupe informatique IBM révèle qu'une série de cyberattaques ont ciblé la logistique de la chaîne du froid. Quant aux fêtes de fin d'année en France, le gouvernement recommande aux Français de voir plutôt petit.
Vous pourrez retrouver vos proches pour les fêtes de fin d'année, pour passer ces moments précieux en famille ou entre amis. Mais cela ne veut pas dire que nous pourrons fêter Noël ou Nouvel An comme les années précédentes. Il nous faudra respecter les gestes barrières et toujours veiller à protéger les plus fragiles, en particulier nos aînés. La plupart de nos voisins européens ont fixé un nombre maximum de convives à réunir pour ces réveillons allant de 6 à 10 personnes, hors enfants selon les pays. Il nous paraît raisonnable de vous recommander une jauge de 6 adultes, sans compter les enfants.
Le Premier ministre Jean Castex, qui espère que l'on pourra passer dans les jours qui viennent sous la barre des 10 000 nouveaux cas quotidiens, la circulation du virus continue de reculer. Aux États-Unis, promotion présidentielle pour ce vaccin. Les anciens locataires de la Maison-Blanche, George Bush, Bill Clinton, 74 ans, sont prêts à se faire vacciner publiquement pour encourager tous les Américains à faire de même, y compris Barack Obama, 59 ans.
People like Anthony Fauci.
Je fais complètement confiance à des gens comme Anthony Fauci, que je connais et avec qui j'ai travaillé. Donc si Anthony Fauci me dit que ce vaccin est sûr, et qu'il peut vous immuniser contre le Covid, bien sûr que je vais le prendre.
Barack Obama à la radio américaine Sirius, traduction Sébastien Paour. Le Royaume-Uni dépasse officiellement les 60 000 morts. Et puis l'Italie enregistre un dramatique record quotidien absolu, 993 morts, et interdit les déplacements entre les régions entre le 21 décembre et le 6 janvier. Et pas question de quitter sa commune le jour de Noël.
L'autre grand titre ce soir, Anaïs, c'est la mort de l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing.
Décédé la nuit dernière des suites du Covid à l'âge de 94 ans, élu président en 1974, la France sortait des 30 glorieuses, venait d'encaisser le premier choc pétrolier, les baby-boomers entraient dans l'âge adulte, Claude François en costume à paillettes et les bronzés en vacances au Club Med. C'est depuis la mairie de Chamalières dans le Puy-de-Dôme que Valéry Giscard d'Estaing avait annoncé sa candidature à la présidentielle le 8 avril 1974, après la mort de Georges Pompidou.
Je m'adresse à vous aujourd'hui, ici, dans cette mairie de la province d'Auvergne, pour vous dire que je suis candidat à la présidence de la République.
Un mois plus tard, il était le plus jeune président de la République à 48 ans, Chamalières, fief historique dont il était maire depuis 1967. Aujourd'hui, les drapeaux au fronton de la mairie sont en berne, mais ces défaites électorales avaient distendu les liens, Christophe Vincent.
Deux revers auraient plus affecté Giscard que son éviction de l'Élysée, son échec à briguer la mairie de Clermont en 95 et sa défaite au régional en 2004. Une blessure jamais refermée, explique Marianne Marchis, adjointe à Chamalières.
C'est profondément injuste la façon dont les Auvergnats, en tout cas une majorité d'Auvergnats, a renoncé à le réélire. Enfin, la région a été profondément modifiée grâce à l'action que seul lui pouvait conduire. Vulcania, il fallait des épaules telles que les siennes pour mener quand même à bien ce projet.
Sur ce double rejet, les anciens ont leur idée.
C'est partout comme ça, vous savez, les gens oublient facilement ce qui a été bon.
J'ai toujours voté Giscard. Mais il a manqué certaines choses, surtout ici, c'est le TGV. Ça nous manque énormément.
Il a eu le tort de penser que c'était réglé. Les Auvergnats sont un peu têtus. Ils ont tourné la page. Je pense qu'ils n'avaient plus d'attache vraie ici.
En 2005, Giscard achète le château d'Estaing dans l'Aveyron et revend celui de Chanona sans perdre son sens de la formule cruelle. Là-bas, j'ai vu des gens souriants. À Clermont, les visages sont fermés. Chamalières, Christophe Vincent, France Inter.
Chamalières dont le maire actuel n'est autre que le fils de Valéry Giscard d'Estaing, Louis Giscard d'Estaing, qui rend ce soir hommage à un homme de la Seconde Guerre mondiale.
Il participe directement et personnellement à la libération de Paris. Enfin, il assiste au discours du général de Gaulle du 27 août 44 à Paris. Et il se dit, mais finalement, le reste de la France continue à être occupé et Hitler est toujours à la tête du régime nazi à Berlin. Il se dit, mais je ne vais pas rester à Paris comme mes camarades, il avait 18 ans, comme mes camarades de classe préparatoire, parce qu'il préparait le concours de Polytechnique. Et il se dit, mais finalement, moi, mon rôle, c'est de combattre. Et il s'engage dans la première armée française de l'Ade de Tassigny et il participera très activement à ces combats, puisqu'il sera, il est chef de char et qu'il recevra la croix de guerre avec citation à l'ordre de l'armée pour ses faits d'armes.
Louis Giscard d'Estaing avec nos confrères de France Info. C'est donc pas en Auvergne mais à Auton, dans un petit village du Loir-et-Cher, que Valéry Giscard d'Estaing est décédé et qu'il sera enterré, obsèque dans la plus stricte intimité familiale selon ses vœux. Emmanuel Macron lui rendra hommage tout à l'heure lors d'une allocution télévisée à 20h. Dans le sillage de ce jeune président, toute une génération d'hommes politiques, les Raffarin, Borloo, Bayrou, au sein du mouvement des jeunes giscardiens, créé en 1966 avec pour ambition, Yael Gauz, de dépoussiérer la politique.
En juillet 1976, le nordiste Marc-Philippe Daubresse a 22 ans. Avec Jean-Pierre Raffarin et Dominique Bussereau, jeunes giscardiens comme lui, le voilà missionné par VGE pour partir à Pékin.
Pour qu'on puisse avoir un premier contact avec les jeunesses communistes révolutionnaires, parce que depuis Perfit qui avait écrit « Quand la Chine s'éveillera », il n'y avait pas eu de véritable délégation diplomatique et Giscard avait eu cette idée de dire on va essayer de le faire par la jeunesse.
À la fête de l'UMA répond la fête des jeunes giscardiens. Les universités d'été, les premières du genre, durent 3 semaines à Montpellier. Giscard mène sa campagne de 74 sur le thème du rajeunissement. Il faut des artistes dans les meetings. Claude François, Hugo Frey, Sylvie et Johnny. L'ancien ministre Dominique Bussereau était aux premières loges.
Johnny vient offrir du muguet au siège de campagne de Valéry Giscard d'Estaing. On tente notre chance et on l'invite à déjeuner. On va chez Lippe et là il nous dit « Je suis sûr, les jeunes, que Giscard il va être élu Premier ministre. » Donc là on a compris qu'il y avait un petit problème d'instruction civique chez notre Johnny adoré.
Nous allons chanter le chant du départ.
Mais pourquoi une telle passion Giscard quand on a 20 ans? C'était neuf, se souvient Marc-Philippe Daubresse.
Chaban avait fondé sa campagne avec André Malraux. C'est plutôt mémoire d'outre-tombe, c'était pas du tout moderne.
Un matin...
45 ans plus tard, nostalgie, quand il repense aux années Giscard, c'est ce tube de Johnny que Jean-Pierre Raffarin se repasse en boucle.
Des tendres années.
À gauche comme à droite, on salue sa modernisation. Les mots sont employés par François Fillon, Bernard Cazeneuve, Jean-Claude Gaudin, car on se souviendra que c'est ce président qui a modelé la France d'aujourd'hui. Téléphone, nucléaire, agence spatiale européenne et TGV. D'abord sceptique, il le déclare finalement d'intérêt public. En 1976, il lance le Minitel. VGE et l'informatique, c'est passionnant, c'est à lire sur franceinter.fr. Dès 1974, c'est la flambée de l'inflation et 1 million de chômeurs à la fin de son septennat. Mais Valéry Giscard d'Estaing a modelé la France au-delà de l'industrie. L'ORTF gaulliste disparaît dès le début de son septennat. Les chaînes de télé d'un côté, TF1, Antenne 2, FR3 et Radio France de l'autre. Transformation aussi plus audacieuse d'une gare en plein centre de Paris. Les trains y partaient pour Orléans. La gare d'Orsay va devenir un des musées les plus visités au monde, Corinne Pellissier.
Toutes les hypothèses avaient été envisagées. Raser les vestiges de la Grande Expo de 1900 pour y créer à la place un nouvel axe de circulation, y construire un grand hôtel. Georges Pompidou avait sauvé in extremis la destruction du bâtiment, mais c'est Valéry Giscard d'Estaing qui avait eu l'idée de ce grand projet à la gloire des peintres du 19e et des impressionnistes, l'un des musées aujourd'hui les plus fréquentés au monde. Sa présidente, Laurence Descartes, rend hommage au défunt président en saluant son esprit visionnaire et son audace.
C'est un des plus grands succès de la politique culturelle française depuis 50 ans et un très bel héritage parce qu'il considérait que c'était un très grand moment de l'art français et qu'il devait avoir son lieu dans le paysage muséal français. Et le coup de génie, c'est effectivement la transformation du bâtiment industriel en musée. C'est un geste très précurseur, hein, comme on l'entendait dans les années 1970-1980.
Faut-il rebaptiser aujourd'hui le musée d'Orsay en musée VGE? Le droit de réserve de Laurence Descartes l'empêche de commenter la proposition de Valérie Pécresse et Rachida Dati. Mais ce n'est pas la première fois que le sujet arrive dans le débat public. En 2016, le Canard Enchaîné évoquait déjà dans ses colonnes une promesse du candidat François Fillon à l'ancien président.
Et si vous voulez poursuivre avec l'affaire des diamants ou encore les talents d'écrivain de Valéry Giscard d'Estaing, c'est sur franceinter.fr.
L'horizon économique de la France va-t-il s'éclaircir?
L'Institut de la Statistique, qui table sur un rebond de la consommation, n'a pas de boule de cristal, mais elle peut faire la photo du pays. L'INSEE dévoile ce soir le portrait social de la France version 2019. Les mesures prises pour le pouvoir d'achat après la crise des Gilets jaunes ont-elles touché leur cible, Delphine Simon?
Oui, mais seulement en partie. Principaux bénéficiaires, les ménages intermédiaires qui ont un emploi rémunéré plus de 1 800 euros net par mois. Les réformes ont permis d'augmenter leur pouvoir d'achat de 300 à 340 euros par an. À l'inverse, aux deux bouts de l'échelle, les plus pauvres n'ont touché que 160 euros, les plus riches 30 euros. Aux avant-postes des Gilets jaunes, les retraités, eux aussi, ont bénéficié d'un peu de pouvoir d'achat en plus, 220 euros en moyenne grâce à la réforme de la CSG, grâce aussi à l'exonération progressive de taxes d'habitation. Selon l'Institut de la Statistique, certaines mesures du gouvernement ont été plus efficaces que d'autres pour réduire les inégalités. Par exemple, la prime d'activité revalorisée. En revanche, d'autres ont produit peu d'effets. L'exonération sociale et fiscale des heures sup, par exemple, qui profite surtout aux ménages les plus aisés, ou encore la disparition de la taxe d'habitation. Elle ne bénéficie pas aux plus pauvres qu'ils ne la payaient pas. Reste à savoir comment ce pouvoir d'achat aura été effacé ou pas par le Covid. Selon l'INSEE, durant le premier confinement, les revenus disponibles des ménages se sont effondrés comme jamais depuis 1949.
Delphine Simon, merci. 15 ans de prison requis contre Joël Le Squarnec aux assises de Charente-Maritime, l'ex-chirurgien accusé de viol et agression sexuelle contre 4 fillettes. Verdict attendu ce soir. L'ancien ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, a été mis en examen sans surprise pour association de malfaiteurs. C'est l'enquête sur un possible financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. Direction maintenant l'Isère, où un village a été quasi entièrement mis à sac cette nuit. Roibon, à la limite de la Drôme. Les habitants réveillés dans la nuit au bruit des coups de masse dans les vitrines. Sur les 500 mètres de la rue principale, pharmacie, boulangerie, supérette, quasiment toutes les vitrines des commerces détruites. Actes ni revendiqués ni signés. Toutes les pistes sont ouvertes, y compris celles d'anciens zadistes qui s'opposaient au projet Center Parcs. Sur place, Gérard Fourgeau.
Depuis l'évacuation des derniers zadistes à la mi-octobre et l'abandon un peu plus tôt du projet de village vacances auquel ils s'opposaient, Roibon avait repris une vie normale.
Ça, c'est vraiment un acte gratuit. Ouais.
Jean-Philippe Fuchs avait repris la supérette du village en janvier. Toutes les vitres de sa devanture ont été fracassées à coups de masse.
J'ai pas besoin de ça, non. Je viens d'ouvrir, ça fait début d'année. Hein. Alors, il faut que ça rentre aussi, quoi. Alors, maintenant, je vais plus en sortir que ça va rentrer. Parce qu'une vitrine comme ça, c'est pas donné. Hein. Non, mais attendez, faut rien avoir dans la tête pour faire ça. Mais je chouperai, moi, je sais pas ce que je ferai. Franchement, saccager, ça sert à quoi ? D'emmerder le monde, c'est tout. Voilà. Un petit village tranquille.
Juste à côté, la poste, la pharmacie, un cabinet d'assurance. Plus loin, un salon de coiffure, la mairie. 3 individus cagoulés ont été vus à 2h du matin. La gendarmerie de Saint-Marcelin enquête. Mais tous les regards se tournent vers les partisans des zadistes, y compris le maire, Serge Perrault.
C'est inadmissible qu'on puisse vivre un tel ensauvagement de ces personnes. Qui sont-elles ? On pourrait douter un petit peu d'un règlement de compte qu'il pourrait y avoir avec les anciens zadistes, puisqu'il n'y a plus de zone à défendre.
Évidemment, un soupçon est loin de faire un coupable, surtout au pied de la copie de la Statue de la Liberté qui toise les vitrines cassées sur la place du village.
Gérard Fourgeau de France Bleu Isère, tué à 100 mètres de sa maison par une balle perdue, le dramatique accident de chasse hier dans le Lot, près du village de Calvignac. Le jeune homme de 25 ans a été tué alors qu'un groupe de chasseurs effectuait une battue au sanglier.
Favoriser l'intégration pour les handicapés, ça passe aussi par les mots.
Le facile à lire et à comprendre, le FALC, c'est un levier pour l'intégration des handicapés car il n'y a pas que l'accessibilité aux bâtiments. À l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, Hélène Chevalier s'est rendue à Tetegem, près de Dunkerque. L'ESAT des Papillons Blancs est le premier établissement à avoir mis en place un atelier de FALC, une méthode européenne créée il y a un peu plus de 10 ans.
Frédéric travaille dans l'atelier FALC depuis 1 an. Avec 5 autres salariés en situation de handicap, il est chargé de simplifier des courriers, des pages de sites internet ou encore des livrets de visite pour les musées.
Il y a des fois qui sont trop longues et des fois il y a des mots qui sont très très compliqués qu'on pourrait plutôt simplifier.
Sa monitrice, Émilie Bell, prend l'exemple d'un prospectus pour les calanques marseillaises.
Les encorbellements à lithophyllum lichénoïde se développent dans les fissures et petites criques battues par la houle du large et fortement exposées au vent.
Traduit cette fois-ci en version FALC.
Le trottoir à lithophyllum est une algue qui pousse dans les fissures et les petites îles exposées à l'eau de mer et au vent.
Au-delà de la simplicité des mots, des phrases employées, le FALC c'est aussi l'ajout d'images, des mises en page aérées, des polices facilement lisibles, une accessibilité qui profite à tous.
Donc on s'est rapidement rendu compte que le facile à lire avait un intérêt pour d'autres publics, notamment les personnes âgées, les enfants, les personnes déficientes visuelles, les personnes qui n'ont pas le français pour langue maternelle également. Et finalement, on est de plus en plus sollicité par des structures diverses pour des documents grand public.
Si leur nombre est encore insuffisant, de plus en plus de documents sont disponibles en FALC. Il existe par exemple une version simplifiée de l'attestation de déplacement. Le gouvernement encourage par ailleurs les candidats aux prochaines élections à traduire leur programme en facile à lire et à comprendre.
Prolonger la vie des réacteurs nucléaires français de plus de 40 ans, c'est un oui peut-être de l'Agence de sûreté nucléaire. Elle propose de poursuivre le fonctionnement de ces réacteurs moyennant la réalisation de travaux. Ce projet de décision est soumis au public jusqu'au 15 janvier. Ils rongent leurs freins pour certains depuis trop longtemps. Les 2 200 000 licenciés de football en France, plus grosse fédération sportive. Les mineurs ont retrouvé le chemin des pelouses. Les adultes vont pouvoir chausser les crampons, mais avec des protocoles très stricts. Bonsoir Guillaume Batin.
Bonsoir.
Et la Fédération de football vient tout juste de donner des conseils à ses 18 000 clubs de foot sur comment s'organiser.
Alors d'abord, en rappelant que les compétitions, les tournois, les matchs sont interdits, les vestiaires doivent rester fermés, même pour aller se réchauffer, pas de goûter ou de troisième mi-temps, pas de déplacement collectif dans la voiture des parents ou en bus, mais les entraînements sont possibles pour les mineurs comme pour les adultes, sous condition, le masque reste obligatoire pour les éducateurs et les entraîneurs sur le terrain, pas plus de 10 personnes maximum par quart de terrain, toujours en extérieur. Les séances doivent durer moins longtemps que d'habitude, sans s'enchaîner pour éviter que les footballeurs se croisent. Et les contacts sont interdits, pas de tacle, pas de mur, on est côte à côte, on évite de toucher le ballon, on s'entraîne à distance. C'est la même personne qui installe et qui range le matériel sur la pelouse, les ballons, les plots ou les piquets. Et puis le référent Covid de chaque club nommé il y a plusieurs mois déjà doit pouvoir présenter la liste des personnes présentes heure par heure.
Merci Guillaume Batin. Et puis Fabienne, sachez que le drapeau chinois flotte désormais sur la Lune. La sonde chinoise vient de quitter notre satellite pour rejoindre la Terre avec dans le coffre des échantillons lunaires, les premiers depuis 40 ans. Si tout va bien, la Chine sera le troisième pays au monde à en posséder après les États-Unis et l'URSS.
Et oui,
il faudrait qu'elle atterrisse d'abord.
Voilà, c'est bien, chaque chose dans l'ordre. Anaïs Feuga pour le journal, merci beaucoup. À demain, Anaïs. On reste ensemble, nous, évidemment, pour le téléphone seul. Nous allons nous pencher sur les annonces de Jean Castex lors de sa conférence de presse et les modalités vaccinales en France. Ça se passe au 01 45 24 7000. Un œil sur le ciel d'abord.
La météo avec les fermiers de Loué qui ne font rien. Rien que des poulets fermiers élevés en liberté. Loué. Libre par nature.
Élodie Calac, le temps perturbé se décale vers l'est.
Oui, avec de bonnes pluies, de la neige en montagne, des 700-800 mètres. Le vent se renforce sur la côte aquitaine ce soir, attention, jusqu'à 110 km à l'heure. Demain, on va retrouver notre perturbation des Pyrénées et de la Méditerranée vers le massif central et le flanc est, avec de bonnes pluies de l'Alsace à la Corse et aussi de bonnes chutes de neige en montagne, des 800 mètres. Attention d'ailleurs sur les Hautes-Alpes, vigilance orange. Sur l'est, on attend 15 à 30 cm de neige des 800 mètres d'altitude. Ça pourrait rendre les conditions de circulation très difficiles.
Et ailleurs, ce sera plus changeant, Élodie.
Oui, entre éclaircies, nuages, quelques averses. Des averses plus marquées quand même près de la Manche avec un peu de grésil et du vent. On aura même un petit peu de neige possible sur les collines normandes le matin. Des averses plus marquées aussi près de l'océan jusqu'à la Touraine l'après-midi avec parfois un coup de tonnerre sur la côte aquitaine et du vent encore assez fort. Et puis pour les températures, 0 à 7 degrés le matin et l'après-midi, 4 petits degrés à Strasbourg, 7 à Lille, Paris, Nantes, Limoges ou Lyon, 9 du côté de Bordeaux, 11 à Montpellier et 15 degrés à Nice.
Merci beaucoup, Élodie Calac de Météo France.